Alors je vous invite de suite à ouvrir le Saint-Livre dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, et nous allons lire le verset 6. Il est écrit, donc Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dans ce texte, on a un des attributs de Dieu, l'une des façons de fonctionner de Dieu. Il nous est dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent Dieu. Et on va lire un deuxième texte dans le livre d'Amos. Alors, il n'est pas facile à trouver. Amos, c'est après les grands prophètes. Donc, après Daniel, il y a Osée, Joël, Amos. Le livre d'Amos, où il y a également une parole de Dieu que Dieu adresse à son peuple. À cette époque, c'est Israël. Mais Dieu ne change pas. Et même si on n'est pas dans la même alliance, c'est-à-dire que l'alliance que Dieu a faite avec Israël n'est pas la même que celle qu'il a faite avec nous, il y a quand même les mêmes principes qui s'appliquent. Et voilà ce que va dire le Seigneur à Israël. Donc c'est dans le livre d'Amos au chapitre 5 et au verset 4. Il est écrit « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël ». Aujourd'hui on pourrait dire « Ainsi parle l'Éternel à l'Église ». Ainsi parle l'Éternel aux hommes. Cherchez-moi et vous vivrez. Il dit donc, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba. Ça, c'était des lieux où on adorait à l'époque. On adorait à Bethel, on adorait à Gilgal, on adorait à Beersheba. Ça voulait dire, si vous voulez, ne cherchez pas dans telle église ou dans telle autre église. Non. Ne passez pas à Beersheba, car à Gilgal sera captif et Bethel deviendra une ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Deux fois de suite, c'est exprimé d'une manière différente, mais Dieu dit la même chose. Il dit « Cherchez-moi et vous vivrez ». Et au verset 6, « Cherchez l'Éternel et vous vivrez ». Et c'est la pensée que j'avais sur le cœur, que j'aimerais simplement apporter. C'est Dieu dit dans sa parole « Cherchez-moi et vous vivrez. » Il ne nous est pas dit chercher une religion. Il ne nous est pas dit chercher un pasteur. Il ne nous est pas dit chercher une église, même si c'est important d'aller à l'église. Il nous est dit cherchez-moi et vous vivrez. Dans le texte qu'on a lu dans Hébreux, il nous est dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le prient. Non. Qui vont à l'église. Non. Qui lisent leur Bible. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'importance de chercher Dieu. Et vous savez au final que l'on peut faire toutes sortes de choses sans chercher Dieu. On peut venir à l'église, mais dans le fond, ne pas avoir envie de le rencontrer. Ne pas faire la démarche de le rechercher lui. Vous savez qu'on peut venir à l'église pour rechercher la communion fraternelle, des frères et des sœurs, des personnes à qui parler. On peut chercher des conseils. Mais là, il nous est dit... Dieu dit « Cherchez-moi, cherchez Dieu, cherchez sa personne, cherchez qui il est lui, qui il est lui. » Il y a cet autre texte qu'on peut aller lire ensemble dans l'évangile de Matthieu, qui est connu, qui nous parle d'une loi du royaume de Dieu. Une loi, c'est quelque chose qui ne peut pas bouger. C'est comme une formule mathématique. Si on fait tous la même formule, on arrivera tous au même résultat. Vous êtes d'accord ? 1 plus 1, ça fait 2. Quelle que soit la personne qui le fait, ça fera 2. Vous êtes d'accord? Bon, à part si c'est un enfant de 3 ans, ça ne fera peut-être pas 2. Mais 1 plus 1, ça fait 2. C'est une loi, c'est comme ça, c'est une addition. La loi de l'addition fait que quand on additionne deux chiffres, on a la somme des deux chiffres. Et là, on a des lois spirituelles qui sont énoncées dans le sermon sur la montagne. Et voici ce qu'il est écrit. Donc Matthieu chapitre 7, verset 7. Il est écrit « Demandez... et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc là, dans ce texte, il nous est dit, celui qui cherche trouve. Vous avez vu, il y a une graduation. D'abord, c'est celui qui demande. Puis après, c'est celui qui cherche. C'est un peu plus que demander. Puis après, c'est celui qui frappe, celui qui insiste. Mais la Bible est claire, et elle dit la vérité, celui qui cherche, il trouve. Pourquoi est-ce que Dieu dit « cherchez-moi » ? Ben c'est parce qu'il a envie d'être trouvé. Non ? Sinon, il ne dirait pas « cherchez-moi », il dirait autre chose. Mais Dieu dit « cherchez-moi et vous me trouverez ». Alors c'est quoi chercher ? Ben chercher, c'est faire des efforts pour trouver quelque chose. Si je veux chercher quelque chose, bah, je vais faire des efforts jusqu'à ce que je trouve. Imaginez, dans le petit jardin à côté, j'ai planqué un trésor. J'ai enterré un trésor. 1 milliard d'euros. Bon, j'ai gagné au loto. Et j'ai planqué le trésor dans le petit jardin à côté. Alors, qu'est-ce que vous feriez ? Bon, ben, le premier qu'il a, il l'a premier trouvé, le premier il le garde. Qu'est-ce que vous feriez ? Moi, j'irais tout de suite acheter une pelle. Puis je me mettrais à creuser. Je chercherais jusqu'à trouver. Quitte, je prendrais une mini pelle, je défoncerais la maison. Avec 1 milliard, on peut reconstruire une maison. Puis je creuserais. Et puis une fois que j'aurai le trésor, je pourrais l'utiliser. Comprenez ? Je vais faire des efforts. Je vais me dépenser jusqu'à ce que je vais trouver quelque chose. Je vais faire des efforts. C'est une chose de savoir que le trésor est là-bas. C'en est une autre que faire des efforts jusqu'à le trouver. Vous comprenez ? Des fois, dans la Bible, on a cet exemple où, à un moment, Joseph et Marie ont perdu Jésus. Ils étaient allés à la fête à Jérusalem. Ils repartent. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont perdu Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont le chercher. Ils vont tout refaire le chemin inverse jusqu'à ce qu'ils trouvent Jésus. Imaginez, vous perdez un enfant. Qu'est-ce que vous feriez ? Vous feriez des efforts jusqu'à le trouver. Dieu dit « Cherchez-moi et vous vivrez ». Ça veut dire que lorsque l'on trouve Dieu, on trouve la vie éternelle. C'est comme ça que je comprends le texte. « Cherchez-moi et vous vivrez ». On pourrait dire « Ne le cherchez pas ». Et vous mourrez. Ou en tout cas, vous continuerez à vivre. C'est l'exemple. Qui dit chercher, qui dit trouver, qui dit faire des efforts jusqu'à trouver quelque chose, veut aussi dire peut-être que l'on a perdu quelque chose. Et vous savez, qu'est-ce que l'on a perdu ? Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de le chercher ? C'est parce qu'on a perdu quelque chose. Ce qu'on a perdu, oui, c'est la communion avec Dieu. C'est sa présence. Puisque ce que Dieu nous demande de chercher, ce n'est pas les bénédictions, c'est de le chercher, lui. Cherchez-moi et vous vivrez. Et c'est vrai, qu'est-ce qui fait qu'on ait besoin de le chercher ? C'est peut-être parce qu'on a été séparés de lui. Si Dieu demande aux hommes de le chercher, c'est parce que les hommes ne sont pas dans sa présence. La Bible nous dit que dès l'origine de la création de l'homme, l'homme a péché. L'homme s'est rebellé contre Dieu. Et parce qu'il s'est rebellé contre Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? La communion a été coupée. L'homme a été séparé de Dieu. Il a été séparé de Dieu. Et au final, la communion, la présence de Dieu que l'homme avait dès le départ, à cause du péché, s'est perdue. Dieu a dit, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'ils sont morts physiquement ? Non. Mais ils ont été séparés de Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins que d'être dans la présence de Dieu. La vraie vie, c'est d'être avec Dieu. Jésus dira que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Connaître dans le sens d'avoir une intimité. Lorsque je suis dans la présence de Dieu, lorsque je suis avec lui et qu'il est avec moi, alors je peux dire que j'ai la vie éternelle. C'est un autre mot pour dire la communion. La communion, c'est l'union commune. Je suis uni à lui, il est uni à moi. Et lorsqu'il y a cette double union, cette communion, alors je peux dire que j'ai la vie. Alors que je peux dire que je suis sauvé. Mais lorsqu'il y a péché et que la communion est rompue, alors je ne peux plus dire que je suis vivant. La Bible dit que je suis mort. Et c'est pour cela que Dieu dit, cherchez-moi et vous vivrez. Parce que lorsque l'on retrouve la présence de Dieu, lorsque l'on retrouve l'union avec lui, alors on peut dire que l'on est vivant. Et si Dieu dit, cherchez-moi, c'est que son désir, ce n'est pas que nous demeurions loin de lui, mais son désir, c'est que nous soyons aujourd'hui, maintenant, avec lui, et que nous le restions jusqu'à notre mort, et que nous le restions pendant toute l'éternité. Qu'est-ce que la vie éternelle ? C'est d'être avec Jésus, dans sa présence, pour l'éternité. Qu'est-ce que la mort éternelle ? Ce qu'on appelle l'enfer. C'est être loin de Jésus pour l'éternité. Loin pourquoi ? Parce qu'on aura choisi de rester loin de lui alors qu'il nous appelait. Mais la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais répondez à l'appel. Bon, c'est moi qui le rajoute. Mais c'est ce que ça veut dire. N'endurcissez pas votre cœur. Et on voit au final que Dieu demande à l'homme de le chercher. Mais on voit aussi dans la Bible que Dieu cherche l'homme. Et qu'au final, cette recherche, elle est réciproque. On voit par exemple, si on va dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, il y a trois petites paraboles qui illustrent ce qu'est le royaume de Dieu. Et on voit que c'est bien plus qu'une religion, c'est une relation que Dieu veut avec nous. Vous savez, le premier commandement, c'est quoi ? C'est « tu aimeras Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée ». Donc le premier commandement, c'est pas « il faut faire ceci ou il faut faire cela ». Le premier commandement, c'est « tu aimeras ». Ça veut dire que ce que Dieu veut en tout premier, c'est une relation avec nous. Ensuite, les œuvres, c'est ce qui découle de cette relation. Mais ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas ce que l'on va faire ou ne pas faire qui va déterminer notre relation avec Dieu. C'est quand j'ai une relation avec quelqu'un qu'alors je modifie mon comportement parce que j'aime la personne. C'est comme si je disais « Jérôme, il faut que tu aimes Manuela. Donc il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. » Mais est-ce que s'il va faire ça, 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 ça et ça, ça veut dire qu'il va l'aimer ? Non. Mais par contre, s'il l'aime, il fera automatiquement les choses, parce qu'il y a de l'amour. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas enfermer les hommes dans une religion, dans des règles à suivre, comme s'ils aimaient Dieu, mais ce que Dieu veut, c'est amener l'homme à l'aimer, et parce qu'il l'aime, il en découlera des œuvres. Mais ce n'est pas l'inverse. Des fois, certaines personnes essayent de mériter l'amour de Dieu. Si je fais ça, il va m'aimer. Mais non. La Bible dit que Dieu est amour et qu'il aime tous les hommes. Dieu vous aime. Qui que vous soyez, vous n'avez pas à mériter l'amour de Dieu. Ça ne se mérite pas l'amour. Dieu vous le donne. Et la Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous aime, mais en plus il nous l'a prouvé. Non pas juste en nous le disant, mais en mourant pour nous à la croix. Qui que vous soyez dans cette salle ou qui entendrez ce message, vous êtes aimé de Dieu. Et vous n'avez rien à faire pour aimer Dieu, pour que Dieu vous aime. Mais la question, ce n'est pas est-ce que Dieu m'aime, c'est est-ce que moi j'aime Dieu ? Là est la question. La question n'est pas est-ce que Dieu me cherche, mais est-ce que moi je veux chercher Dieu et sa présence ? Parce que comme on va le voir au travers de ces deux petites paraboles, on voit que Dieu nous cherche. Et au final, il nous demande de le chercher lui, mais avant qu'il nous demande de le chercher, lui-même nous a cherché le premier. Par exemple, dans Luc au chapitre 15, au verset 3, il est écrit, donc c'est Jésus qui parle et qui donne une parabole, mais il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi ». Car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Donc on voit dans ce texte que Jésus se compare à un berger qui cherche sa brebis. Eh oui, on voit au final que l'image qu'il utilise du royaume de Dieu, ce n'est pas une brebis qui cherche le berger, c'est d'abord le berger qui cherche la brebis. Et au final, c'est exactement ce que Dieu a fait. Tout à l'heure, on a dit que chercher, c'est faire des efforts jusqu'à trouver. Eh bien, Dieu nous a cherchés et il a fait des efforts jusqu'à ce que il puisse nous atteindre. Qu'est-ce qu'il a fait comme effort? Il est venu sur cette terre, il a pris cette croix et il a accepté de souffrir la punition que méritaient nos péchés, le châtiment que méritaient nos péchés. Qu'est-ce qui mettait une séparation entre nous et Dieu? C'était notre péché. Et oui, c'était nous les coupables. C'est nous qui avons désobéi à Dieu. C'est nous qui avons fait le mal devant Dieu. C'est nous qui ne pouvions plus venir dans sa présence à cause du mal que l'on a fait, à cause des mensonges, des mauvaises pensées, à cause de toutes ces choses qui nous souillent et qui font qu'on n'est pas digne de nous présenter dans la présence de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu lui-même. Et il a choisi de souffrir lui-même afin qu'il n'y ait plus aucune séparation entre nous et lui. À l'époque, dans le temple, il y avait un voile qui était là et qui symbolisait la séparation entre nous et Dieu. Et lorsque Jésus est mort à la croix, le voile a été déchiré, de haut en bas. Ce qui nous montre que c'est Dieu lui-même, d'en haut, qui a déchiré le voile jusqu'à nous, en bas. Et au final, Dieu nous a cherchés et nous a ouvert l'accès à sa présence. Il a fait tout ce qui était possible de faire. Il a cherché. Et même cet après-midi, par sa parole, par son esprit, il vous cherche. Il vous cherche. Il fait des efforts. Et une fois de plus, il appelle pour que vous puissiez venir dans sa présence. Dans sa présence. Il y a une autre parabole où c'est, au verset 8, c'est la même pensée qui est exprimée, verset 8, où quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, donc c'était une pièce d'argent, d'une haute valeur, n'allume une lampe et ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Vous avez vu? Ne cherche avec soin. On voit vraiment l'image de la femme qui cherche. Elle balaye, elle éclaire, elle cherche avec soin. Est-ce que vous savez que Dieu vous cherche, mais avec soin? Avez-vous déjà entendu sa voix? Avez-vous déjà vu dans votre vie des indicateurs, des personnes qui vous ont parlé, des circonstances qui ont fait que vous avez réalisé que Dieu vous cherchait? Oui, parce qu'il vous cherche. Et cet après-midi, c'est encore un appel qu'il vous lance à venir dans sa présence. Et enfin, on a cette parabole du fils prodigue, enfin qu'on appelle la parabole du fils prodigue, où on voit un père qui attend que son fils revienne. Et on voit vraiment les deux. La recherche de Dieu et à un moment la recherche de l'homme qui s'est éloigné de la présence de Dieu. Et on voit qu'est-ce qui se passe lorsque l'homme revient, lorsqu'il réalise que sa déchéance, qu'à cause de son péché, sa condition, sa dignité a été perdue, et qu'il revient vers le Père, on voit un Père qui attend son Fils, et qui n'est pas là pour le juger, qui n'est pas là pour le condamner, mais qui est là pour l'embrasser, pour lui mettre des habits neufs, et au final pour faire la fête avec lui. Et dans ces trois paraboles, on voit le dénominateur commun, c'est qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie dans le ciel. Et vous savez, lorsque Dieu cherche un homme et que l'homme cherche Dieu et qu'il y a la rencontre, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la joie. Il y a de la joie pour Dieu parce que c'est ce qu'il attend, c'est de retrouver notre présence. Et il y a de la joie pour l'homme parce que lorsqu'un homme retrouve la présence de Dieu, il n'y a pas de joie plus grande sur cette terre. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus merveilleux, il n'y a rien de plus profond, il n'y a rien qui puisse tant rendre un cœur joyeux que la présence de Dieu. Et au final, on voit que les hommes cherchent, on cherche dans le monde via de la méditation, via des loisirs, via le travail, ils cherchent à remplir un vide qu'il y a dans le cœur. Et peut-être que vous vous sentez vide et vous cherchez désespérément à remplir ce vide. Peut-être que vous pensiez que c'était dans les relations amoureuses que ça remplirait le vide, et ça ne le remplit pas. Peut-être que vous pensiez que c'était dans la réussite financière, vous l'avez et ça ne remplit pas. Peut-être que vous pensiez que c'était en venant à l'église, ou à la meilleure des religions qu'il puisse y avoir, et pourtant ça ne remplit pas le cœur. La seule chose qui puisse remplir le cœur, ce n'est pas une chose, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. Et si vous avez été créé, ce n'est pas pour être loin de Dieu. Si vous avez été créé, c'est pour être dans la présence de Dieu. Et au final, on voit, première page de la Bible, la création. Et on voit au final l'homme qui est créé. Mais pourquoi est-ce qu'il est créé ? Ben, faut voir comment ça se termine. Dernière page de l'Apocalypse. On voit l'Esprit et l'Église qui disent à Dieu, viens. On voit un mariage, une union. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme ? Quel est le but de notre vie ? C'est d'être uni à Dieu. Ce n'est pas d'aller à l'église et de faire ceci ou de faire cela. Ce n'est pas d'appliquer telle ou telle règle. Le but, la volonté de Dieu, c'est que l'on soit uni à lui. Et il n'y a que dans cette union, dans cette communion, que le cœur est pleinement rassasié et qu'il y a de la joie. Si on va ensemble dans le psaume 34, il y a cette expérience qui a été vécue par un homme et qui a été vécue par plusieurs d'entre nous. Dans le psaume 34, au verset 5, au verset 2, allez. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est un homme qui loue l'Éternel. Il va dire que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Ah, donc il va dire quelque chose qui peut réjouir le malheureux. Que le malheureux écoute et se réjouisse. Alors, est-ce que vous voulez vous réjouir ? Alors, écoutez. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Vous avez vu que les malheureux écoutent et se réjouissent. Et il va dire, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. La question donc que j'aimerais vous poser, c'est, voulez-vous chercher l'Éternel ? Parce qu'on peut tout faire, même la chose la plus religieuse, dans l'église la plus pentecôtiste qu'il puisse y avoir, sans chercher Dieu. Mais on peut aussi chercher l'Éternel. Est-ce que c'est le but de ma vie, chercher Dieu ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important que de trouver la présence de Dieu ? En tout cas, Dieu nous a cherchés et ça lui a coûté de venir dans notre présence à cause de nos péchés. Et au final, ce qui nous empêchait de nous approcher de lui a été détruit à la croix. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. À cause du péché, on est éloigné de lui, mais Dieu nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Au travers de ce qu'il a fait à la croix, nous pouvons venir dans sa présence, nous pouvons regarder vers lui sans être couverts de honte, comme le dit le psaume, parce que notre honte, c'est lui qui l'a pris à la croix. Et je peux être purifié de mes péchés et venir dans sa présence parce que lui en a payé le prix. Et au final, l'évangile, ce n'est pas l'homme qui va payer un prix pour Dieu, c'est Dieu qui a payé un prix pour nous. Ce qu'il nous demande, c'est la foi. On l'a lu tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le cherchent. Comment le chercher ? Avec la foi. Jésus s'est offert à vous. Cet après-midi, Dieu s'offre à vous, offre sa présence. À nous de la saisir par la foi. Simplement prendre pour soi ce que Jésus-Christ vous donne. Et lorsque un homme saisit le pardon de ses péchés, uniquement par la foi dans le sacrifice de Jésus, alors rien ne peut l'empêcher de s'approcher de la présence de Dieu et d'être heureux. Quel que soit le péché, quel que soit le passé, quelles que soient les choses mauvaises qui ont pu être faites, rien ne vous empêche, rien ne peut vous empêcher de vous approcher de Dieu. À un moment dans la Bible, on voit un homme qui était dans le pire cas possible, il était possédé par 1000 démons, par une légion de démons. On pourrait se dire, s'il y en a un qui ne pouvait pas s'approcher de Dieu, c'était lui. Les 1000 démons n'ont pas pu l'empêcher de venir au pied de Jésus. Rien ne peut vous empêcher de venir dans la présence de Dieu. Parce que Jésus a vaincu à la croix. La question est, voulez-vous chercher sa présence ? En tout cas, Dieu dit, cherchez-moi et vous vivrez. On va lire un dernier texte qui se situe dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55. On va lire à partir du verset 1er. Ésaïe 55, verset 1er. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer, parce que c'est Dieu qui a payé. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » Donc ce que Dieu veut, c'est rassasier notre cœur, c'est combler le vide de votre cœur. Verset 3, « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. » Verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je relis le verset 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oui, aujourd'hui, maintenant, il est prêt, il est accessible. C'est encore le jour du pardon, c'est encore le jour de la grâce.